L'Afrique subit de plein fouet les conséquences du réchauffement climatique. Perte de la biodiversité, sécheresse, baisse des rendements agricoles, érosion côtière, tous les voyants sont au rouge. Pourtant, à l'échelle mondiale, notre continent n'est responsable que de 4% des émissions de gaz à effet de serre. Les questions liées à l'environnement sont devenues à la fois une urgence climatique et sociale. Alors, dans votre podcast Green Africa, nous allons essayer de mieux saisir les enjeux du changement climatique et entrevoir des solutions. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Green Africa. Avec 3500 km de côte, le Maroc est un trésor maritime. Ce mois de juin est l'occasion pour nous de mettre en avant la diversité de la richesse marine et côtière du royaume. Et dans cette aventure, un homme, un grand monsieur de la protection de notre environnement, nous servira de boussole, mais aussi va nous éclairer notre lanterne sur bien des sujets concernant l'économie bleue. Abdelrahim Kessri, le président de l'association des enseignants des sciences de la vie et de la terre, est notre invité aujourd'hui. Sir Kessri, bonjour et merci encore, merci d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour, c'est toujours un grand plaisir de participer avec vous.
Alors, Sir Kessri, l'avenir du Maroc est dans l'océan. Pourquoi avoir choisi ce thème pour marquer d'une pierre blanche la semaine de l'océan dont les activités sont toujours en cours?
Oui, c'est précisément parce que parfois on croit que les activités terrestres, comme l'agriculture, comme certaines industries, comme un certain nombre d'économies, qui sont liées vraiment à la partie terrestre des pays, est plus importante que la partie océanique. Mais on oublie aussi que les contraintes, vraiment. D'abord, pour le Maroc, je donnerai deux chiffres qui sont clairs. Le Maroc, 38% de sa superficie, elle est terrestre. 750 000 km². Et plus de 60% de sa superficie, elle est marine. C'est 1 200 000 km² et 3 500 km de côte. Ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire que la partie marine dépasse largement la partie terrestre. Deuxième constat qu'il ne faut pas oublier, c'est que la partie terrestre, c'est 65% de désert et le reste, elle est dans un climat aride à semi-aride. Et donc, il y a la pluie rideau, elle existe déjà et elle ne cesse de s'aggraver à cause des changements climatiques. Donc, l'eau qui impacte tous les secteurs d'agriculture, d'industrie, etc. Alors qu'on a l'eau, elle est très abondante. On oublie qu'on a 70% de surface terrestre, c'est des océans. Et donc, dans notre pays, c'est le cas. C'est l'océan qui est primordial, et donc il faut absolument comprendre que maintenant, on recourt pour produire de l'eau potable, vivable et un peu d'agriculture aux stations dessalement. On a programmé 20 stations d'ici 2030 pour régler le problème. Donc, c'est l'océan qui va donner la réponse à l'eau. L'énergie, il y a énormément de potentiel pour produire des énergies durables au niveau des océans, que ce soit éolienne, que ce soit marine et d'autres types d'énergie, donc, et même solaire. Donc là, il y a un potentiel énorme. Mais ce qu'on oublie aussi, c'est que maintenant, la source de biodiversité pour l'alimentation, donc la sécurité alimentaire, ça viendra obligatoirement des océans parce qu'on peut avoir des fermes extraordinaires pour produire déjà le poisson, plus de 50% du poisson consommé à l'échelle mondiale, il vient des fermes et non pas de la capture directe des poissons.
En tout cas,
mais il y a un potentiel pour les algues, il y a un potentiel pour d'autres micro-algues qui peuvent entrer dans énormément de produits alimentaires, pharmaceutiques, technologiques, donc il faut absolument, même énergétiques. Donc il faut absolument comprendre que toutes les sources, la biodiversité, la sécurité alimentaire, énergétique, la sécurité hydrique, tout dépend de l'océan. Et donc notre avenir, c'est dans l'océan.
L'avenir du Maroc est dans l'océan, vous l'avez bien dit. Immense est la richesse de l'écosystème océanique marocain. Mais Sir Kessri, aujourd'hui, ce trésor est en train de nous échapper. Ce trésor se dégrade à cause notamment de l'action de l'homme. Quelle est l'ampleur aujourd'hui de la dégradation des zones marines et côtières au Maroc?
Oui, la première problématique, c'est notre approche. Comment on a considéré toujours la mer?
D'accord.
On a considéré comme une banque où on a un compte bancaire et on ne fait que prélever et personne ne dépose rien. Donc on ne peut pas continuer à épuiser un écosystème si on ne pense pas à sa productivité, sa capacité de produire. Donc il faut le soutenir pour qu'il produise et pour l'exploiter de manière durable. Et donc là, le premier problème, c'est la surexploitation. Que ce soit de la pêche, avec l'utilisation parfois de moyens qui sont illégaux, qui ne laissent pas d'abord se reproduire dans des conditions normales. C'est pourquoi l'accord de Montréal, le 19 décembre 2022, il vient d'être proclamé, il a suggéré comme engagement international que 30% des océans soient protégés. Yeah. Et donc, ça veut dire quoi, protéger? Ça veut dire il faut les transformer en des aires marines protégées. Et pour les transformer en aires marines, parce que certaines zones où les poissons se reproduisent, on a besoin de les protéger, soit de manière catégorique, soit d'une manière vraiment prolongée. Et donc là, on donnera la chance, et ça a été prouvé, que lorsqu'on préserve des aires marines, la biomasse animale de la pêche, elle augmente de 600%.
Effectivement.
La biodiversité, elle augmente de 20%.
Effectivement, la protection des aires marines protégées, c'est un moyen efficace de retrouver et restaurer, mais aussi rendre plus abondantes nos ressources marines et côtières.
Oui, parce qu'on croit, la plupart, les pêcheurs, ils veulent exploiter le tout. Maintenant, on n'a même pas 1% de zones marines protégées au Maroc. Ça ne marche pas comme ça. Mmh. Et c'est pourquoi on n'arrête pas de prolonger les périodes de repos biologique. Et ces périodes ne suffisent pas. Parfois 2 mois, parfois 3 mois. Maintenant, c'est même les opérateurs eux-mêmes qui demandent de prolonger ces périodes. Parce qu'ils ont compris que sans période de repos biologique, l'année d'après, puis l'année suivante, ils ne trouvent rien. Donc, on leur donne un quota, ils ne le trouvent même pas. Et ils n'arrivent pas à avoir la quantité qu'ils ont pêché avant. Donc, il faut. Et lorsqu'il y a période de repos biologique, ils remarquent qu'il y a vraiment cette capacité de reproduction. Et donc, là, c'est eux qui demandent ça. Mais maintenant, même le sardine, qu'on n'avait jamais imaginé qu'il a besoin de période de repos biologique, c'est les opérateurs, que ce soit de l'agroalimentaire ou que ce soit de pêche, c'est eux qui ont demandé une période de repos parce qu'ils ont remarqué que l'océan il est en train de se vider. Mmh. Et on est en train de vivre des situations catastrophiques avec tout l'impact sur l'emploi, avec tout l'impact sur les richesses. Et donc là, il faut passer de ce stade où on fait des petites solutions par ici, par là. Il faut faire de grandes solutions.
Justement,
si on n'en préserve pas. Ouais.
Justement, Sir Cyril, l'État marocain dans tout cela, comment réagit-il ou comment a-t-il réagi pour stopper l'ampleur de cette injustice dont est victime nos océans?
Oui, il y a le rapport du nouveau modèle de développement, il était clair. Mmh. Il y a déjà un système de rente, il a parlé de ça. Il a parlé aussi que, d'une manière indirecte, qu'il y a un déséquilibre des pouvoirs, c'est-à-dire parfois, ce sont les acteurs économiques qui sont les plus puissants et donc leur lobby, ils imposent parfois, ils empêchent certains responsables à appliquer certaines lois. Mais dans ce climat, l'informel, il n'arrête pas de se développer. C'est pourquoi le nouveau modèle, il a dit, on a besoin d'un État fort et d'une société forte. Mmh. Ça veut dire quoi, un État fort? C'est un État qui permet un débat scientifique, un débat objectif, mais après, il faut prendre des décisions. Après, il faut faire une surveillance de qualité. On a le pouvoir de le faire. Et après, il faut appliquer les sanctions sur ceux qui ne respectent pas les règles. Parce que si on laisse chacun faire ce qu'il veut, en disant il ne faut pas l'empêcher parce qu'il dépend, parce qu'il vit de ça, et ben, c'est cette personne qui va vraiment perdre son emploi ou perdre... c'est-à-dire la capacité de générer des revenus de cette activité. Donc l'État, grâce à la science, doit être beaucoup plus forte que les différents lobbies. Et en ayant la science à ses côtés, elle va prendre les bonnes décisions. Mmh. Et généralement, même si on va préserver certaines zones de manière définitive ou pour laisser la reproduction se faire, ou empêcher certaines zones de manière temporaire, là, on aura des aires marines protégées et on aura une augmentation, ça s'est fait dans d'autres pays, de la biomasse et de la diversité, qui sont indispensables à la survie de ces écosystèmes.
Alors aujourd'hui, quels sont réellement les défis à relever pour protéger de manière efficace nos océans, Sikasri?
Oui, le premier défi, l'État marocain, il a commencé à le prendre. C'est déjà ne plus parler de secteur de pêche, secteur de transport tout seul ou de port, etc. Il faut parler d'économie bleue. Et en 2022, juin 2022, l'État marocain, il a signé avec la Banque mondiale sur un prêt de 350 millions de dollars pour instaurer cette économie bleue. Et elle a eu encore 50 000 dollars pour le ministère des Finances qui va coordonner cette économie bleue. Et c'est un choix très intelligent d'avoir le ministère des Finances parce que ce n'est pas une question d'un secteur de pêche ou autre, c'est tous les secteurs. Et donc là, il y a le tourisme, il y a le transport. On a vu comment un seul port au niveau de Tanger, Tangermed, il a changé complètement la carte économique du pays, du royaume, et il a libéré les emplois extraordinaires. Donc le transport maritime, on ne donnait même pas d'importance à ça. Maintenant, il faut le renforcer. Il y a le tourisme, il y a d'autres types d'activités de tourisme qu'on n'a jamais fait. Il faut absolument libérer les autorisations, accompagner les jeunes pour créer plus d'emplois des jeunes partout dans les 9 régions du Maroc où il y a des villages et des communes rurales qui sont très pauvres et alors qu'ils ont des ressources inépuisables. Il suffit de les accompagner pour le tourisme nouvelle génération avec des bâtons où les gens peuvent faire des fêtes, peuvent boire un café au niveau de l'océan et se fixer des chiffres. Pourquoi ne pas avoir 60% de Marocains qui bénéficient de ça? La plongée sous-marine, les Marocains ne connaissent pas la biodiversité. Vous demandez à quelqu'un 10 poissons, il ne les connaît pas, alors que c'est un moyen de plaisance, mais aussi de connaissance. Et la connaissance, c'est la reconnaissance, c'est la valorisation de tous les services écosystémiques de l'océan. Ça, on a besoin aussi de les inclure dans les curricula de l'enseignement supérieur, l'enseignement scolaire, parce qu'on ne connaît pas. Il faut développer beaucoup de start-up et appuyer tout ça. C'est pourquoi le circulaire sur l'économie bleue, pour nous, c'est la bonne voie à prendre pour faire une planification maritime, pour faire des schémas schémas littoraux régionaux pour avoir vraiment cette planification parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi dans n'importe quel espace maritime. Parfois, on peut mettre une station de dessalement alors que c'est la zone où se reproduisent les espèces marines qui font vivre des centaines et des milliers. On sait très bien que Safi était la capitale mondiale du sardine, mais on a instauré une usine sans se soucier de sa pollution du milieu marin. Et ben, il a perdu ce chapeau. Et donc, on peut perdre encore et encore parce que lorsqu'il y a les courants marines qui s'appellent Epuiling, il n'y a que 5 pays qui reçoivent ces courants. Et donc, s'il y a du sardine, ce n'est pas parce qu'il y a la mer. La mer, elle est partout. Mais dans certaines zones, il y a des courants qui apportent des sels minéraux et avec elles, beaucoup de poissons. Et d'accord. Donc, on ne peut pas, dans ces zones-là, mettre des unités industrielles des salmons. On ne peut pas mettre des usines qui déversent leurs déchets, même s'ils les déversent à une distance des émissaires de 2 km. On dit, voilà, on ne voit pas la pollution. Non, elle peut impacter fortement des ressources naturelles. Donc, il faut absolument... Il y a des récifs coralliens qui sont très fragiles. Parfois, il faut que toute cette zone soit totalement protégée parce que c'est elle qui alimente les autres zones où on va pêcher. Si on pêche dans les courants, les récifs coralliens, c'est ce qui se passe maintenant, on perd même la capacité de reproduction.
Sikasri, depuis le 8 juin, vous ne comptez pas les heures de travail. Vous êtes sur le terrain même en ce moment. Pouvez-vous revenir sur le programme de la semaine de l'océan au Maroc?
Ah oui, la semaine de l'océan, maintenant c'est la 4e édition. On est en train de mobiliser les 9 régions, d'abord pour des activités de sensibilisation. Et nous, on vous remercie avec tous les médias qui nous accompagnent parce que c'est le seul moyen d'arriver à un plus grand nombre de nos citoyens pour qu'ils comprennent, mais aussi les décideurs, parce que parfois, les décideurs n'ont pas cette vision à jour de ce qui se passe dans l'économie bleue à l'échelle mondiale. Comment on peut passer d'une gestion sectorielle à une gestion intégrée? Et ça, c'est pas facile. Il faut que le système éducatif fonctionne, le système associatif fonctionne, l'acteur privé fonctionne et tout le monde adhère. C'est pourquoi l'acteur médiatique est le central dans cette conduite de changement. Il y a aussi, à part la sensibilisation, on fait des actions de terrain. On amène des gens faire des tournées en bateau, alors qu'ils ne l'ont jamais fait, même si on a une superficie maritime extraordinaire. Mais on amène des gens à manger des algues dans le repas ou dans l'entrée ou le repas principal pour qu'ils comprennent que c'est une nourriture extraordinaire. Mais c'est un secteur qu'on ne touche pas au Maroc. On a aussi des activités de découverte des zones côtières, des zones marines. Et en plus de ça, on fait beaucoup de dialogues et de plaidoyers dans les 9 régions pour ramener les différents acteurs à se rencontrer annuellement, au moins durant cette semaine, pour débattre de qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on n'a pas fait et qu'est-ce qu'on peut faire. Il y a des acteurs scientifiques, administratifs, les élus et tout le monde autour de la table. Ils parlent de cet avenir qu'on doit assurer ensemble grâce à l'océan.
Alors, dans ce programme, vous jouez beaucoup plus la carte de la sensibilisation. À vous entendre parler, vous plaidez pour une éducation à l'océan. J'imagine l'école a un grand rôle à jouer aussi.
Oui. On plaide vraiment à ce qu'il y ait ce qu'on appelle, nous, dans l'ASBT, l'éducation à la transition. C'est l'une de nos missions. Oui, éduquer, mais éduquer de manière à les gens comprennent ce qu'ils ont dans leur territoire. Parce qu'on a fait des petites études comme ci, comme ça, en demandant aux Marocains quel est l'arbre qui couvre 1 million de hectares. 1 million de hectares sur les 5 millions. Ils ne la connaissent pas. 96% n'ont pas trouvé. Alors que ce sont des gens qui ont étudié pendant 10 ans, 20 ans. Ils ont leur licence, ils ont leur master, etc. Parfois même leur doctorat, mais ils ne savent pas ça. Ça veut dire que parfois on rate L'essentiel, c'est de connaître ce qui nous entoure pour le préserver, parce qu'on ne peut préserver que ce qu'on connaît, que ce qu'on aime, et on ne peut aimer que ce qu'on connaît.
Et donc, c'est
la
quel arbre?
C'est le premier pas.
Et c'est quel arbre?
Alors là, c'est le chêne vert. C'est le chêne vert. Et là, si on pense, on n'a pas fait ça pour la mer, mais on va le faire, si on pense sur quelques types d'algues, une dizaine d'algues, la plupart ne les connaissent pas. Même 10 algues, même 10 types de poissons de manière structurée, très peu les connaissent. Donc il faut absolument qu'on revoie nos modèles de formation, d'enseignement, pour que les gens comprennent ce qu'ils ont dans leur pays comme richesse et comme possibilité de développement.
En tout cas, Sikré Siri, merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'était très instructif. Nous aussi, nous avons beaucoup appris à vos côtés. Merci beaucoup.
Merci infiniment.
Voilà qui referme ce numéro de Green Africa. Merci de l'avoir suivi. Un grand merci aux équipes techniques et rédactionnelles ayant contribué à sa réalisation. Où que vous soyez, prenez soin de vous et de votre environnement. En plus d'être une urgence climatique, elle est aussi une urgence sociale.